Bonjour à tous. D'après notre calendrier, comme Rachel a déjà dit, nous sommes le dimanche de Pentecôte. Rachel nous a rappelé ce qui s'est passé ce jour à Jérusalem, quelques jours après l'arrestation, la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus. Les apôtres étaient dans l'attente de la suite des événements. Et Dieu a envoyé son Saint-Esprit sur ses disciples. Cet événement spectaculaire a conduit à la naissance de l'Église chrétienne. À la lecture de la parole de Dieu, je suis toujours à nouveau interpellé par la chronologie des événements. Dieu a un plan pour les hommes et les femmes qu'il a créés. Nous pouvons découvrir ce plan par la lecture de sa parole. Les événements sont annoncés et ils se réalisent dans l'ordre chronologique. Pentecôte est un de ces événements annoncés. Annoncé par Jésus lui-même. Et on peut le lire dans Jean 14, versets 16 à 21. Et moi, c'est Jésus qui parle. Hein. Donc, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et également dans Jean 16 au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pentecôte était annoncée, et très rapidement, 10 jours après l'ascension, les langues de feu descendent sur la nouvelle communauté des croyants. La naissance de l'Église de Jésus-Christ, l'Église chrétienne. Ce matin, nous allons nous intéresser à cette église primitive de Jérusalem. Un modèle à suivre ou à ne pas suivre, chacun pourra se faire sa propre opinion à la fin de ce message. En tout cas, un exemple décrit dans le livre des Actes des Apôtres que nous allons découvrir. Donc nous allons lire dans Actes 2, versets 41 à 47. Donc c'est juste après la Pentecôte, hein, donc... Il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, donc jour de Pentecôte, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. » Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Un peu plus loin, en Acte 4, versets 32 à 35... La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et le déposait aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et un petit peu plus loin, en Actes 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui nous rendent un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voilà, la nouvelle Église, un enthousiasme à toute épreuve, une croissance incontrôlable, un contexte économique particulier, des tensions internes et une opposition externe farouche. Début difficile. Comment les apôtres et les nouveaux baptisés vont-ils agir pour aller dans le sens de ce que Dieu attend d'eux? Des choix doivent être faits. Il faut s'en tenir à l'essentiel, ne pas se disperser et risquer que tout s'arrête. Nous constatons que les apôtres ont fait les bons choix. Je relis la règle de verset 42 de acte 2. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. Pour l'enseignement, les apôtres avaient été formés par Jésus lui-même au cours de son ministère terrestre. L'Ancien Testament, la loi de Moïse, les prophètes, étaient les références pour la relation entre Dieu et ses créatures à cette époque. L'ensemble des apôtres faisait partie de ce peuple descendant d'Abraham, à la destinée si particulière. À cette époque, l'accès aux textes écrits était réservé à une élite intellectuelle. Le peuple, le grand nombre, recevait un enseignement oral, des histoires racontées et répétées de génération en génération. Pour être instruit, pas de Bible à lire. Et pour comprendre le message nouveau de Jésus, les apôtres devaient consacrer la majorité de leur temps à l'enseignement oral. Raconter ce que Jésus a enseigné tout au long de sa vie terrestre. Vous vous rappelez, le sermon sur la montagne, les paraboles, les prises de position de Jésus par rapport aux autorités religieuses juives, son attitude par rapport à l'occupant romain, son courage pour aller jusqu'au bout de sa mission en acceptant le châtiment par lequel nous pouvons être sauvés. L'enseignement, un travail à plein temps. La deuxième base de cette nouvelle Église, la communion fraternelle, c'est-à-dire la relation des uns avec les autres. L'option prise par les apôtres, la nouvelle Église, est de vivre cette communion fraternelle au quotidien, en prenant soin les uns des autres et par la mise en commun de biens matériels. Ceci nous interpelle. Est-ce le modèle à suivre? Ce modèle est-il selon la volonté de Dieu pour les chrétiens? Nous verrons par la suite que ce modèle économique a été très éphémère et a conduit en quelques années à la pauvreté de cette communauté basée à Jérusalem. Néanmoins, le fait de se séparer d'une partie de ses biens matériels pour le transformer en argent mis dans un pot commun fait partie de l'enseignement de Jésus sur l'argent. Jésus a dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Il a dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus ». Et il a dit également « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». En fait, l'organisation de la nouvelle communauté montre que notre système de valeurs doit changer. Les possessions, l'argent, ne sont plus des droits propres et individuels, mais des outils à la gloire de Dieu et au service de son peuple. Que sommes-nous prêts à abandonner pour le bien commun? Jusqu'où laisserons-nous Christ nous transformer nos systèmes de valeurs? Troisième base, le partage du pain. Nos corps doivent être nourris régulièrement pour que nous puissions être actifs, même si nous optons pour le travail à plein temps pour le Seigneur. D'après la culture et les traditions juives, beaucoup de commémorations, d'illustrations d'événements historiques se célèbrent autour du repas pris ensemble. Par exemple, le repas de la Pâque, pour célébrer la sortie d'Égypte, les différentes fêtes des moissons, la fête de Pentecôte, qui était une fête sur le calendrier juif, tout ça se passait autour de la table et dans la communion fraternelle autour des repas. L'enthousiasme des nouveaux croyants les a amenés à prendre leur repas en commun. Assis autour de la table, on discute de choses et d'autres. On apprend à se connaître. On peut se rendre service les uns aux autres. Et pendant ces temps de repas nécessaires à l'entretien des corps charnels, il y avait également un temps symbolique où le partage du pain devait rappeler la présence terrestre physique de Jésus et le partage du vin devait rappeler sa souffrance. Le prix que Jésus a payé pour que nous soyons acceptés dans la présence de Dieu. Le partage du pain et du vin renforce la cohésion du groupe dans cette nouvelle Église et permet de recentrer l'attention des nouveaux convertis sur cet événement symbolique que Jésus a institué lui-même alors qu'il fêtait la Pâque juive et juste avant d'être livré par Judas. Quatrième base, les prières. Prière individuelle, prière communautaire. Jésus a appris à ses disciples comment prier. Nous venons de le répéter, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est un exemple. On le retrouve dans Matthieu 6, verset 5, comme on l'a récité tout à l'heure, ça a rafraîchi la mémoire de tout le monde. Voilà. Et Jésus a également fait un enseignement sur la prière, par exemple dans Luc 18, versets 10 à 14. On va lire ce passage. 18, versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs à un juste adultère ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » « Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Jésus avait donc fait un enseignement sur la façon de prier. Et donc cette église primitive était très assidu au temps de prière. Les apôtres ont été bousculés, peut-être submergés. S'ils ont pu garder le bon cap, c'est qu'ils ont pu s'astreindre à un temps de prière pour prendre du recul, pour rentrer dans la présence de Dieu, pour exprimer leur reconnaissance pour les bénédictions divines, pour demander à Dieu d'intervenir, pour aider à prendre les bonnes décisions et pour permettre à son royaume d'aller de l'avant. Prier pour que la nouvelle Église puisse grandir selon la volonté de Dieu. Cette organisation autour de ces quatre piliers de l'enseignement, de la communion fraternelle, du partage du pain et de la prière a permis à la nouvelle Église naissante d'annoncer le nom de Jésus coûte que coûte. Le pouvoir religieux autour du temple de Jérusalem a déjà été violemment bousculé par l'enseignement de Jésus. La rumeur persistante de sa résurrection et le fait que les disciples se soient à nouveau regroupés après le sauve-qui-peut général suivi du chacun pour soi au moment de l'arrestation de Jésus. Mais Pentecôte les a rassemblés et leur a donné du courage. Pierre et Jean prennent leurs responsabilités. En allant au temple, ils croisent jour après jour le paralysé qui fait l'aumône à la belle porte du temple. Au nom de Jésus, ils lui disent « Nous n'avons pas d'argent à te donner, Mais ce que nous avons, on te le donne, lève-toi et marche. » Et ce paralysé a été guéri, au nom de Jésus de Nazareth. C'est spectaculaire. Les gens en parlent. Les autorités religieuses sont inquiètes. Les gens sont arrêtés et mis en garde à vue avant de se faire interroger le lendemain. On va lire le passage. Acte 4, verset 1 à 3. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens mécontents de ceux qui enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Pour l'interrogatoire, la question des principaux sacrificateurs est : par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ? Nous allons lire la réponse de Pierre, versets 8 à 12, toujours acte 4. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Malgré les tentatives d'intimidation et les menaces de la part de ses autorités, l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile continue. Au chapitre 5 du livre des Actes, toujours, les apôtres sont à nouveau arrêtés et jetés dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur les fait sortir, mais on les retrouve le lendemain pour les interroger. Pierre et les apôtres vont à nouveau être obligés de s'exprimer avec force. On va regarder ce deuxième discours de Pierre, donc acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent : il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Une sorte de désobéissance civile. D'une manière générale, la Bible enseigne la soumission aux autorités, le respect des lois humaines. Mais néanmoins, la fidélité, l'obéissance à Jésus-Christ prime sur tout pouvoir humain. La croissance de l'Église a été spectaculaire. Une bonne base spirituelle, les apôtres prêts à défendre le nom de Jésus même au péril de leur vie. Et un peu plus tard, on a l'exemple d'Étienne, qui a été lapidé parce qu'on lui a reproché justement d'être devenu chrétien en fait. Et donc cette église primitive n'a eu qu'une existence limitée dans le temps. Le modèle économique ne tenait pas la route. Pour nourrir au quotidien l'église, les uns et les autres vendaient tout ou partie de leurs biens et le confiaient aux apôtres qui assurait la redistribution à chacun selon ses besoins. Devant l'abondance des dons et la croissance en nombre de personnes converties et baptisées, la première année a été facile à gérer. À mon avis, les apôtres étaient dans l'idée que le retour de Jésus, qui était annoncé également, allait être imminent. Tout ce qui avait été annoncé venait d'être vécu en quelques mois. La mort, la résurrection, l'ascension, le Saint-Esprit, et donc la suite, c'est Jésus qui revient. Et donc ils étaient dans cette idée que de toute façon, ça allait se passer rapidement, et donc on n'avait pas besoin de prévoir l'avenir. C'était une incompréhension, là encore, de la part des disciples, de ce que Jésus leur avait enseigné. Mais nous savons que Jésus reviendra pour installer son royaume de paix, de justice et d'amour sur notre terre. Dans cet état d'esprit, le court terme pour les apôtres était suffisant. L'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes, l'annonce de la résurrection et du pardon des péchés au nom de Jésus. L'attente imminente de son retour occupait leurs pensées et déterminait leur action. Les difficultés matérielles sont apparues très rapidement et la communauté de Jérusalem a connu la pauvreté et la famine. On va lire dans Actes 11, les versets 27 à 30. En ce temps-là, les prophètes descendaient de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous l'empereur Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et ils firent parvenir aux anciens par les mains Et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc ils ont demandé de l'aide économique aux communautés extérieures à Jérusalem. On peut retrouver aussi une allusion à ce contexte dans 1 Corinthiens 16 au verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Voilà, donc c'était bien pour les chrétiens de Jérusalem qui ont consommé tous leurs biens matériels en quelques temps. Et donc ils ont été surpris, ils ont dû faire appel à la solidarité des chrétiens d'ailleurs. Le contexte économique et politique dans lequel cette nouvelle église a démarré était très compliqué. Et quand les difficultés du quotidien prennent toute notre énergie, il est difficile de faire des projets à long terme et sur plusieurs générations. Les apôtres n'ont pris conscience qu'immédiatement que le message de Jésus n'était pas seulement une révolution pour leur génération à eux, mais que ce message de Jésus allait changer le fonctionnement de la société au niveau mondial et pour toutes les générations à venir. Cette prise de conscience tardive a incité Matthieu, Marc, Luc, Jean, à mettre par écrit la vie et l'enseignement de Jésus qui nous intéresse toujours, même 2000 ans après cette première rencontre. Le Saint-Esprit continue de faire son œuvre, génération après génération, et la parole de Dieu dure pour toujours. Pour conclure, dimanche dernier, Denis Kennel nous a parlé de la reconstruction du mur autour de Jérusalem du temps de Néhémie. La mission était de bâtir ce mur, de construire quelque chose ensemble, sans exclure personne, malgré les moqueries et l'opposition, en cherchant l'apaisement en Dieu, sans se décourager, en regardant en arrière pour le travail qui a déjà été accompli, et sans baisser la garde, en restant toujours vigilant avec les armes qui sont à notre disposition. Après la Pentecôte, le lendemain de cette spectaculaire journée, il fallait bâtir la nouvelle Église de Jésus-Christ avec les hommes, les femmes et les moyens de cette époque. La base était solide, Actes 4, versets 11 et 12, repris par 1 Corinthiens 3, verset 11. On va le relire. Actes 4, versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et donc c'est repris dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. L'organisation initiale était très efficace et le démarrage spectaculaire. Dieu a utilisé ces hommes pour faire avancer son projet et pour l'humanité tout entière. La méditation de ce matin nous montre également qu'il faut sans cesse travailler à l'adaptation du fonctionnement de l'Église aux situations concrètes. Rien n'est figé. Le monde et la société sont en mouvement, mais Dieu est souverain. Laissons-nous enseigner, recherchons la communion fraternelle, partageons le pain et prenons du recul et de la hauteur dans la prière, et ainsi Dieu pourra nous utiliser pour bâtir son Église. Amen.